Alors, il est 20h, place Jean Jaurès à Castres et partout ailleurs en France.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur l'émission Nous travaillons pour l'Europe, une émission de débat, de quiz et d'échange sur notre vénérable institution qu'est l'Union européenne. Nous sommes, nous sommes le jeudi pour cette émission et nous allons commencer avec nos débats. Donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Pauline, j'animerai cette émission pendant une heure. Mais également, je vous propose de m'appeler si vous voulez participer à nos débats ou si vous avez des questions ou des petites précisions à nous apporter sur l'Union européenne. Donc, je vous donne le numéro de téléphone qui est le 08 74 76 81 81. Et tout de suite, je vais commencer par présenter mes intervenants. Donc, je vous présente Flore.
Bonsoir.
Alors Flore, comment vas-tu ?
Je vais très bien, je débarque en Europe, alors j'aimerais bien connaître un peu plus de choses.
Tu ne connais pas l'Europe, hein ?
Non, je ne connais pas l'Europe et peut-être que nos auditeurs non plus, donc voilà, on est là pour apprendre.
Voilà, exactement. Et je vous présente à sa gauche Mathieu.
Bonsoir, je m'appelle Mathieu et je suis un Européen avant tout.
Voilà, moi je me sens plus française quand même. Flore, est-ce que tu te sens européenne toi ? Non, puisque tu débarques, mais...
Mais bientôt, j'espère.
Bientôt, bientôt. Ben justement, nous allons être là pour t'apprendre à être européenne et nous allons commencer donc avec quelques questions puisque l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, ben, c'est tout un tas d'informations qui circulent tous les jours et que nous trouvons sur nos grands médias. Donc, pour l'instant, nous allons nous poser une question qui a été posée par un de nos intervenants qui m'a demandé dans une soirée, depuis quand le cannabis est-il toléré en Belgique ?
Ah, il est toléré ?
Oula, il est toléré. Question, on va tous aller courir en Belgique dans pas longtemps.
Mais qu'est-ce que le cannabis en plus ?
Qu'est-ce que le cannabis, grande question.
Alors, bah, je vous propose de me donner des dates.
Ah.
Ah.
Le premier
1980.
Non. Beaucoup plus bas.
D'accord.
58.
Non, pas encore.
70.
Oui. Beaucoup plus bas. Ah, vous pouvez descendre.
64.
Encore plus.
Ça se fait avant la création de l'Europe ?
Ah, ça s'est fait beaucoup avant la création de l'Europe. Je crois qu'à cette époque, on ne parlait pas encore d'Europe, d'ailleurs.
Ouh, 1850.
Beaucoup plus bas.
Connaissez le cannabis avant 1850 ?
Oui, je crois qu'il...
Oui, non, pas la préhistoire quand même. Je pense qu'à cette époque, ils ne connaissaient pas. Bon, je vais vous dire, c'était en 1660. Et à cette époque, le cannabis a été toléré au même titre que le tabac. Donc ceci est une information de Joris Corot. Hein. Je ne suis pas allée la chercher, je ne suis pas allée la vérifier. C'est donc sur la foi de sa parole que je lui fais confiance et que nous allons commencer avec la seconde question qui est « Dans quel pays un chat a-t-il hérité de son maître ?»
Oh, c'est tellement uberluesque que ça doit venir d'Angleterre.
Bravo!
Wow.
Merci, merci.
Bon, cela dit, je ne voudrais pas insulter nos congénères d'outre-Manche. Oui, non, effectivement, ce chien qui s'appelle Jasper a hérité de ses maîtres parce que en Angleterre, les chiens sont considérés comme des sujets et non comme des objets.
Mm-hmm.
Voilà. Avais-je un chat avant? Je ne sais plus.
Oui, tu avais dit un chat, mais c'est pas grave.
Bon, c'est un chat qui est devenu un chien entre-temps. Voilà. Alors, une autre question qu'on peut se poser, je ne sais pas si vous êtes allé en Allemagne.
Et non.
Désolé. Non.
Oh, je ne sais pas pourquoi je vous ai invité. Hein.
Okay.
Pour la prochaine fois, on viendra. Il n'y a pas de problème, boire de la bière.
Mais alors, ce n'est pas de la bière que je vais vous parler. Je vais vous poser une question à propos du Nutella. Alors, il se trouve que le Nutella allemand est beaucoup plus dur que le Nutella français.
Dur dans le sens que c'est pas mou, c'est plus dur à manger ou...
Exactement. Quand on plante un couteau dans le Nutella allemand et qu'on soulève le couteau, en général, on soulève le pot de Nutella avec le couteau. Alors que quand on plante un couteau dans le Nutella français et qu'on soulève le couteau, j'espère que j'ai un auditeur au moins à Castres qui est en train d'essayer mon truc. Je répète, quand on soulève le couteau du Nutella français, eh bien, le couteau part tout seul. Il y a un petit peu de Nutella qui est accroché dessus, mais il part tout seul. Alors je vous demande pourquoi.
Il l'a mis au frigo.
Bonne réponse à ma droite.
Je sais pas, j'ai déjà essayé. Alors.
Ah, tu as découvert le frigo depuis pas longtemps en plus, je suis contente. Non, mais ce n'est pas pour ça. Tu as essayé, c'était bon. Hein.
Bah, ça peut arriver aussi en France que le couteau reste planté, il suffit de le placer dans le micro-ondes après. Ils connaissent pas le micro-ondes en Allemagne ?
Alors ça, j'en sais rien, mais la réponse est quand même peut-être d'ordre plus pratique. Ça a à voir avec la façon dont ils mangent le Nutella, qui est d'ailleurs la même que les Français. Comment vous mangez du Nutella ?
Sur une tartine.
Sur une tartine, ouais.
Ah, mais ils ont du pain dur.
Ouais, voilà, ils ont du pain dur. Oh là 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 là.
Oula, j'ai pas compris du tout.
Elle n'est pas européenne, mais elle est douée. Alors, ah oui, il se trouve que les Européens mangent un, les Allemands mangent un pain infect, qui est du pain noir. C'est-à-dire que c'est du. Si, il est infect. Mon chef d'antenne me dit que non, mais si, il est infect.
Il est peut-être bon pour la santé.
Oui, il est meilleur pour la santé, puisqu'effectivement, il est composé d'une farine. Mais surtout de graines qui sont entières, qui ont encore leur son et qui sont juste ignobles. Et effectivement, il est bon pour la santé puisque le pain complet, tout ce qui est céréales complètes, forcément, c'est meilleur pour le transit, etc., etc. Mais donc, ce pain étant plus dur, le Nutella peut être plus dur puisqu'ils explosent moins, c'est leur tartine à le tartiner dessus. Sachant qu'en France, avec du pain, avec du Nutella trop dur, si on voulait le tartiner, ben, on écraserait la mie.
Ah, ce serait un désastre.
Ce serait un désastre énorme. Et puis, le Nutella coulerait. Et en parlant de Nutella, connaissez-vous la marque qui commercialise Nutella ?
Ferrero.
Ferrero, qui commercialise également les Mon Chéri, ces délicieuses sucreries.
Et les Kinder.
D'accord. Et oui, et les Kinder, effectivement. Et alors, savez-vous de quelle nationalité est cette marque ?
Avec un nom comme Kinder, ça doit venir d'Allemagne ?
Raté.
Raté, merde. Un truc scandinave ?
Et non, pour, non, même pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand je me suis dit Kinder, je me suis dit effectivement, ça doit être allemand.
Ah, mais c'est européen ?
C'est européen, effectivement, c'est pour ça que j'en parle.
Wow.
Un pays du Nord, pays du Sud ?
Un pays du Sud.
Un pays du Sud ?
Oui.
L'Espagne ?
Non, pas loin.
Portugal.
J'ai entendu son nom quelque part, mais ce n'est pas le Portugal.
Romain l'Italie. A dit l'Italie.
Romain, qui est Romain ? Oui, mais effectivement, c'est l'Italie ! Et
oui,
alors.
Je précise que Romain est dans l'assistance technique. Bonne réponse de Romain, bravo.
Voilà, exactement. Merci Romain de suppléer au manque de mes petits chroniqueurs. Non, pourquoi l'Italie ? En fait, c'est un pâtissier qui s'appelle Pietro Ferrero qui l'a inventé en, qui a inventé cette marque en 1880. Au début, c'était un magasin. Pietro Ferrero, voilà exactement. Depuis, Ferrero a eu une grande expansion partout dans le monde. Il est premier en Allemagne, en France, en Espagne et donc également en Italie. Et donc tout ça pour dire, mademoiselle qui vous gavez de Mon Chéri, de Ferrero, de Nutella et tout ça, continuez, vous soutenez l'économie européenne. Je vous félicite d'ailleurs.
Je suis rassurée.
Voilà exactement, moi aussi. Bon, c'est toujours mauvais pour les fesses, mais on pourra adresser nos réclamations plus tard. Et en parlant d'Europe, connaissez-vous Europe ?
Le qui groupe de musique ?
Ah, je ne savais pas qu'il y avait un groupe de musique qui s'appelait Europe. Non, je vous parle de. Alors, il s'agit de la fille d'un roi et d'une reine de Mycène qui s'appelait Europe et qui a donné son nom à notre compagnie européenne. Et bien, cette jeune fille a subi un chagrin d'amour. Savez-vous pourquoi ?
C'est pas mythologique, ça ?
Et si, c'est mythologique.
Elle s'est fait violer, alors.
Oh, la pauvre.
Oui, non ?
Effectivement, t'es pas loin. Mais est-ce que tu pourrais dire avec qui t'as eu un rapprochement ? Oui, un dieu.
Son père.
Oh non, pas son père. Son père n'était pas un dieu.
Zeus ?
Oui, ah ben, au hasard. Effectivement.
Quand il ne se change pas en taureau, ben, il va.
Mais
il
c'est
va
exactement ça. Effectivement, il s'est exactement changé en taureau pour aller la draguer. Mais rassurez-vous, pendant l'acte sexuel en lui-même, il n'était pas un taureau. Non, alors précisons qu'il s'était changé en taureau parce que sa femme, Junon, n'arrêtait pas de le courser partout et de le surveiller et qu'il s'était dit « Eh ben, en taureau, elle va pas me reconnaître. »
Du coup, il est allé faire du rodéo avec Europe.
Voilà, c'était à peu près ça. Mais alors, il se trouve quand même que sa femme l'a reconnu et qu'il s'est barré. Voilà, d'où le chagrin d'amour.
Pauvre Europe.
Exactement.
Mais n'empêche, maintenant, c'est une grande histoire pleine de... Pleine de l'allégresse
et nous allons, exactement. Et nous allons enchaîner tout de suite avec de la musique.
J'ai nommé
c'était Alto Front de Sa Majesté. Ils n'ont pas arrêté de le répéter d'ailleurs durant toute la chanson. Vous avez aimé ?
Oui, c'était super.
Moi, j'ai pas trop aimé.
C'est ça l'Europe.
Non, ce n'est pas que ça l'Europe. Par contre, effectivement, c'est une partie de la France, mais la France, c'est une autre histoire. Mais donc, nous allons tout de suite continuer notre exploration de l'Europe avec ma prochaine question, qui est une question qui me tient à cœur, puisque c'est une question d'art contemporain et que je suis une petite étudiante d'art contemporain. Alors, dans quelle ville se trouve la Fondation Pinault ?
C'est le truc qu'ils devaient construire il n'y a pas longtemps et qui n'a pas pu se faire en France ? Ça n'a aucun rapport, c'est un rapport.
Et effectivement, il y a une histoire de comme ça, que ça ne se faisait pas en France, ou du moins ça traînait en longueur.
Donc on parle bien du Pinault, le gars de Renault.
Oui, effectivement, ça, on parle du PDG milliardaire qui, durant toute sa vie, a acheté un bon nombre d'œuvres. Donc il a acheté un petit peu de tout, des peintures, des Picasso, il a 2 ou 3 Renoir, quelques Manet aussi, mais aussi de l'art plus contemporain.
Donc moi, j'ai ma petite idée. Donc,
je vois que Flore est perdue.
Ce serait pas à Venise ?
Oui, effectivement, c'est à Venise.
Bravo.
Et c'est au Palazzo Grazzi qui, en fait, s'effondrait lamentablement sur son grand canal. Donc, il l'a carrément racheté, il a fait les travaux, il a transformé ça en petite fondation. Et puis, voilà. Alors, pour information, le prix d'entrée est de 9 euros. Voilà, si vous voulez y aller. Et en plus, il n'y a pas de tarif étudiant. Voilà, je me suis renseignée.
Vous qui réparlez dégâts.
Oui, exactement. Mais ouais, quand même, milliardaire. Mais continuons donc toujours avec l'Italie. Ah. Et je vais vous poser une question. Sur quel conflit Romano Prodi s'est-il récemment achoppé avec l'Église ?
Un conflit avec l'Église en Italie ?
Oui.
Ouh, ça a l'air croustillant. Non, je ne sais pas. Mais... Flore n'a pas l'air de savoir non plus.
Non, Flore sèche.
On la comprend, elle n'est pas.
Alors, pour vous aider, ça s'est passé récemment dans l'année, on va dire, janvier-février, sur une loi qui touchait notamment les homosexuels, qui les touchait par ricochet.
Ils ont légalisé l'homosexualité en Italie ?
Je ne sais pas si l'homosexualité était légalisée ou pas, ou en tout cas, France, elle est légale, rassurez-vous.
Sur le mariage ? Enfin, non, pas là.
Non, effectivement, c'est sur le système de Pax.
Il n'avait pas de Pax jusqu'alors, avant en Italie.
Non, mais je crois que la France est l'un des rares pays à avoir adopté un contrat qui soit un petit peu à côté du mariage, plus ou moins, quoi. Mais donc, effectivement, l'Église a fait savoir qu'elle ne voulait absolument pas de ce Pax et elle a donc réussi grâce à son lobby. Et voilà.
Donc, et Romano Prodi voulait se paxer, lui ?
Non, alors j'en sais absolument, je pense pas, mais une bonne partie.
On ne ressent pas la vie privée de Romano Prodi.
Cela ne nous regarde pas.
Et ça a été annulé, ce projet ?
Oui, effectivement, ça a été annulé, mais une bonne partie de la population l'acceptait. Il allait être voté, mais effectivement, au dernier moment, il a été enlevé de l'ordre du jour de vote. Et en fait, il n'a été absolument pas voté. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu donner... Les députés n'ont même pas pu donner leur avis, juste parce que l'Église a réussi à faire pression.
Ouais, c'est pas tous les jours facile d'avoir le Vatican dans son propre pays, quoi.
Oui, c'est ce qu'on peut se dire. Et sur ce, nous allons continuer avec une autre question, et encore avec une autre histoire politique. Puisque je vais vous demander à quel chantage a récemment cédé... Alors, monsieur, est-ce qu'il y a des Espagnols parmi nous ? Est-ce que vous parlez un peu espagnol ?
Un peu, beaucoup.
J'espère que parmi mes auditeurs, il n'y en a pas trop parce que je vais écorcher lamentablement ce nom. Monsieur José Luis Rodríguez Zapatero. Ah non, ça va, je m'en suis bien tiré.
Ça va, ça va.
Alors, à quel chantage a-t-il récemment cédé ?
Un chantage pas bien ?
Ouais, un chantage pas très très bien, non, enfin...
Un petit indice peut-être ?
Alors, un petit indice. Alors, monsieur Zapatero, Premier ministre de l'Espagne... a cédé à ce chantage le 7 mars 2007, c'est tout récent... Et c'est sur une histoire d'ETA.
ETA. Donc ils sont encore en exercice. Donc c'est politique.
Oui, c'est plus ou moins politique.
Il avait un projet de loi, il l'a annulé, c'est ça ?
Ah non, ça n'a pas vraiment à voir avec ça. C'est plus une histoire d'une affaire humaine. Effectivement, l'ETA a un volet politique qui est toujours très actif.
Ce serait pas un prisonnier de l'ETA qu'il a dû libérer ?
Exactement, un terroriste, décidément.
Mais il est fort.
Il faudrait que je comptabilise, en fait, pour voir quels sont mes meilleurs chroniqueurs et qu'à la fin, je ne garde que les meilleurs pour vous, chers auditeurs.
Mais s'il n'y en a que deux, ça va être dur.
Attends, j'espère bien tourner toutes les semaines. Non, je ne les flagelle pas, mais je veux garder le meilleur pour mes auditeurs. Non, effectivement, savez-vous comment... avez-vous une idée de quel chantage a pu exercer ce membre de l'ETA, ce terroriste,
Un chantage à l'attentat?
Oh non, quand même pas.
Ah, c'est pas marrant, là.
Ah non, ce serait trop facile. Ah.
Je ne sais pas.
Non, moi, j'ai pas d'idée du tout.
Sur quoi pourrait-on faire chanter un Premier ministre
Eh bien, il se trouve qu'il a fait une grève de la faim qui a duré, tenez-vous bien, 114 jours.
Ah, bah, c'est bien.
Ah, bah, c'est bien.
Non, mais je veux dire...
Donc, j'ai pas bien compris.
Il se prend pour Gandhi, c'est bien.
J'ai pas bien compris, c'est donc le prisonnier qui fait une grève de la faim pour se faire libérer ?
Voilà, exactement. Ouais. Alors, rappelons que ce prisonnier avait quand même assassiné, qui s'appelait Juan Carlos, avait assassiné, excusez-moi si j'écorche encore le prénom, avait assassiné 25 Espagnols dans le cadre de son activité terroriste.
C'est pas bien alors ?
Non, c'est pas bien du tout.
Donc, il s'est fait libérer ?
Il va se faire libérer, effectivement.
C'est pas une grande victoire pour la justice en Espagne.
Non, effectivement. Mais rappelons à propos de ça que Margaret Thatcher, plus tôt dans son temps, n'avait pas hésité à laisser mourir de faim 9 terroristes de l'armée de libération irlandaise.
Margaret Thatcher n'est pas connue pour sa grande bonté et grandeur d'âme.
Oui, non, il me semble qu'on l'appelait la Dame de Fer, d'ailleurs.
Exactement.
Donc, je pense quand même que pour cette histoire de chantage, quand même, il y a dû avoir des tractations par derrière, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir... peut-être pas de l'argent, mais en tout cas une promesse qu'il n'allait pas recommencer ses actes. Du moins, j'espère, parce que sinon, on est un petit peu mal parti.
Oui.
Et nous attendons tout de suite notre 9e question.
Et, facile, j'espère.
Et non, je pense que je vais vous poser en fait une question politique, une question un petit peu plus institutionnelle sur l'Union européenne. Et par exemple, en quelle année la communauté européenne est-elle devenue Union européenne ? Ouh, j'en vois une qui triche.
Flore consulte ses fiches.
Puisque l'Union européenne ne s'est pas toujours appelée l'Union européenne.
Des humains à ma gauche. Alors, elle trouve ? Non, elle trouve.
Bon, on va la laisser chercher.
Ce serait pas. Alors ?
C'est pas là.
C'est pas cette page-là.
C'est dans les années 90.
Bon,
Avec le traité de Maastricht, non ?
Effectivement. Ouh, j'ai entendu !
Ouh là 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 là.
C'est une bonne réponse de Greg.
Nous avons des bons spectateurs avec nous.
Exactement. Car nous enregistrons cette émission en public.
Donc si vous voulez venir, la porte vous est grande ouverte.
Mais non, mais je suis très contente puisqu'il a été cité le traité de Maastricht. Et donc nous allons enchaîner avec ça. Puisque effectivement, mais qu'est-ce que donc ce traité ? De quoi parlait-il ?
Une bonne question.
C'est mais oui, mais d'ailleurs, question. Mathieu, c'est toi qui l'as cité, donc c'est toi qui pourrais nous en parler, je suppose.
C'est ceux qui en parlent moins. C'est ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus, comme d'habitude. Non, le traité de Maastricht, ça doit être un truc économique assez compliqué. En
Fleur
fait, c'est ce qui a fondé la nouvelle économie en Union européenne, c'est tout ce que j'en sais.
Ah, ça avait l'acier, le charbon, non, c'est pas ça.
Ça, c'était en
1951.
Ah, bon. Ouais, en 51, la communauté... Attends, alors la communauté... économique du charbon et de l'acier, c'est ça. Mais non, plus tard, effectivement... Fleur, tu ne cherches même pas dans tes papiers ?
Non, mais ça y est, pas, je sais, je les connais.
Le traité de Maastricht, c'est parce qu'il a instauré l'euro pour les années 2000 et l'ouverture à l'Europe vers les nouveaux pays de l'Est, ce genre de choses.
Oui, effectivement, c'est le traité programmé, donc l'arrivée d'une monnaie européenne qui soit unique, effectivement, mais également il élargissait son champ d'action politique. Donc j'ai appris effectivement que l'Union européenne, c'est une institution politique qui a des lois, notamment pour l'agriculture. Et en 91, il élargissait son champ à l'éducation, à la culture, notamment les politiques de production, mais également à l'environnement, qui faisait son entrée, mais également avec une politique étrangère commune qui, à terme, devrait mener à une défense commune, c'est-à-dire une armée commune. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi... je le sens pas trop.
Oui, dans l'état actuel des choses, c'est pas vraiment ce qui est à l'ordre du jour.
Avec, oui, non, à 27.
Comme on a pu le voir avec le problème de la guerre en Irak et on va dire la non-conformité de l'avis, s'il y a, oui ou non, il fallait attaquer l'Irak entre par exemple l'Angleterre et d'autres pays comme la France ou l'Allemagne. On peut se dire qu'une défense commune avec 27 pays, parce que maintenant l'Europe forme 27 pays, c'est pas encore d'actualité. Mais ça se construit, donc peut-être qu'on aura la chance de voir ça.
On espère aussi rester en paix quand même.
Et oui, mais justement, en fait, l'Union européenne est quand même, c'est quand même l'une de ses grandes réussites, a réussi à unifier 27 pays et donc à pacifier toute une zone européenne. C'est-à-dire que nous connaissons effectivement la plus grande période de non-guerre de tous les temps.
60 ans.
Voilà, nous sommes à peu près à 67 ans par là. Croisons, touchons du bois. Auditeurs, touche du bois pour que ça dure.
Ouais.
Mais effectivement, nous allons donc continuer avec une autre question. Et alors, une question plus frivole maintenant, une question qui va intéresser toutes les demoiselles. Et bien, je vais vous poser une remarque, ça marche aussi pour les hommes. En fait, de quelle couleur doivent être les sous-vêtements que l'on porte le 1er janvier en Italie?
Très bonne question.
Alors Mathieu, est-il sorti avec une Italienne le 1er janvier?
Non, pas une Italienne. Donc ça je ne suis pas, incapable de répondre
alors,
à la question.
Je ne sais pas, tu ne l'as pas vu. Flore,
Italienne.
As-tu été en Italie un 1er janvier?
Et non, mais je sais pas, je dirais jaune.
Jaune.
Orange.
Orange, bon. Non, en fait, c'est rouge.
On n'était pas très loin. Allez, c'est
bien. Non, effectivement, le jaune plus l'orange, ça fait encore plus jaune. Mais, ou encore plus orange, c'est selon. Non, effectivement, c'est rouge. Bah, en fait, c'est censé porter bonheur et également faire prospérer la passion dans un couple, mais également la fertilité.
Et c'est que pour les femmes?
J'ai découvert récemment que c'était aussi pour les hommes.
Mmh. Pour les strings, tout ce genre de choses.
Oui, effectivement. En fait, il faut savoir que maintenant, les marques de lingerie italienne se ruent sur l'occasion pour vendre et pour écouler tout leur stock. Hein, et effectivement, doubler leur chiffre d'affaires le 30 et le 31 décembre, puisque beaucoup de personnes l'achètent et le portent le 31 décembre pour le 1er janvier à 1h, l'avoir sur eux.
Encore faut-il être en couple?
Et pas forcément. Justement, si c'est pour attiser la passion ou la faire prospérer, on peut se dire que la passion débute quand on est célibataire, mais qu'elle continue en couple, qu'elle va peut-être déboucher sur un couple.
Et puis rien n'empêche de se balader avec des sous-vêtements rouges le soir du 31 décembre.
Dans la rue, oui, tout à fait.
Effectivement.
Si on a les mœurs plus ou moins légères, oui, on peut encore...
C'est l'Italie.
Oui, cela dit, le 31 décembre, je pense qu'en Italie, il fait froid, donc c'est peut-être pas non plus... Je le recommande pas, bien sûr. Et rappelle qu'une loi en France punit, je crois, d'une amende de...
Cher.
Oui, de très cher, voire même de prison, tout ce qui est considéré comme racolage passif. Donc n'écoutez pas mes chroniqueurs qui vous disent qu'on peut toujours se balader en sous-vêtements le 31 décembre. Ne le faites surtout pas. Voilà. Mais... on a toujours continué avec l'Italie. L'Italie est un pays que j'aime beaucoup parce que je vais vous demander ce qu'a inventé un pizzaiolo en Italie.
La pizza.
Excusez-moi, auditeur, j'ai du mal à retenir mon rire. Effectivement, je pense que la pizza a été inventée en Italie, mais...
Il était déjà pizzaiolo.
Voilà, il était déjà pizzaiolo, donc il faisait déjà des pizzas.
La petite... la roulette qui... qui coupe la pizza, là.
Merci Flore d'essayer de combler ce vide humoristique. Non, est-ce que c'est un truc culinaire?
Oui, non, mais effectivement, c'est une. On va dire que c'est une façon de manger. Bon, une façon de présenter, de manger la pizza en fait.
La pizza sans pâte, non.
Non, la pizza sans pâte, ce n'est plus. Je pense que ce n'est plus de la pizza, c'est une salade.
Non. Est-ce que c'est un truc qui rénove complètement le monde de la pizza ou c'est un truc totalement différent?
Alors écoutez, avec ce nouveau concept de pizza, il a lancé une boîte. Mais je ne vais pas vous dire le nom de la boîte parce que j'ai bien peur qu'avec le nom, vous deviniez tout de suite ce que c'est. Et il a l'intention effectivement de conquérir le monde. C'est-à-dire qu'il est installé en Italie, en Espagne, en Allemagne. Il va bientôt ouvrir des chaînes de restaurants en France.
Mais ça concerne le mode de préparation de la pizza ou après pour l'emballage, le service?
Un petit peu de tout, puisque ça concerne donc le mode de préparation de la pizza, mais par ricochet également la façon de la manger. Et donc,
elle change de forme, non?
Elle change de forme.
Une pizza qui est renfermée, qui est comme une boule avec à l'intérieur tout ce qui est normalement sur le dessus de la pizza.
Eh bien, tu es pas loin, mais en fait, il se trouve que ça, c'est déjà inventé. C'est une calzone. Il me semble que les calzones, quand on fait des chaussons de
pizza. C'est pas pratique à manger. J'en ai mangé une autre jour, là, derrière. Eh bien, c'est pas pratique du tout.
Mais ça fait partie de la découverte de l'Europe, puisque l'Europe passe aussi par les taches de ketchup qu'elle met sur les t-shirts. Voilà. Non.
C'est joli ce que tu dis, là.
Je sais, des fois je me laisse aller à de la poésie, excusez-moi mon auditeur. Non, plus précisément, effectivement, la pizza n'est plus plate, mais elle a une certaine forme qui est... Bon, je suis en train de dessiner.
Non, il faut parler parce qu'ils ne voient pas déjà.
Alors, elle est conique. Hein.
Et un cornet de pizza.
Voilà, exactement. C'est, la société glaces, s'appelle Kono Pizzo.
Ah, oui.
Kono avec un K, bien sûr.
Bien sûr.
Et alors, si vous voulez aller voir le site, c'est konopizzo.com. Et donc, cette pizza donc, se prépare coniquement et se mange comme ça. Le slogan est la première pizza que vous pouvez manger en marchant. Et c'est également quand la pizza rencontre la glace. Mais nous allons tout de suite enchaîner avec une nouvelle musique que je ne connais toujours pas et dont je ne connais toujours pas l'horaire. Mais je vous en prie, musique. Mais nous espérons.
Ah si, c'est bien.
Bof. Alors, nous écoutions Sting avec Roxanne. Voilà. Et alors, il est 20h31. Il est toujours à la place Jean Jaurès à Casserey, partout ailleurs en France. Et bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes donc sur l'émission européenne qui a un petit nom, mais nous travaillons pour l'Europe, mais qui pourrait changer. D'ailleurs, si vous avez une idée de nom pour cette magnifique Union européenne, pour cette magnifique émission, je vous prie d'appeler le numéro 08 7476 81 81. J'étais en train de cuisiner donc mes petits chroniqueurs sur l'Union européenne et nous allons aborder tout de suite les deux dernières questions concernant l'Union européenne avec déjà une petite question que j'affectionne beaucoup et qui est très frivole. Pourquoi ? Je vais vous demander pourquoi le prince William s'est-il séparé de sa petite copine ?
Oh, c'est triste.
Oui.
Ah oui, parce que tout le monde l'annonçait comme la nouvelle Madame Williams, je vais dire. Elle était bien sympathique d'ailleurs.
Eh bien oui, alors elle était très sympathique effectivement. Ils s'étaient rencontrés en 2001 à leur université et s'est rappé. Alors il y a deux raisons, bien évidemment. Il y a une raison officielle et il y a une raison officieuse.
Elle n'était pas assez riche.
Je vous demande l'officieuse, bien sûr.
L'officieuse, tu demandes.
Celle qu'on ne dira pas.
Peut-être que Williams pratiquait une certaine forme d'amusement frivole avec elle qui ne lui plaisait pas.
Oui, Ou le contraire, je ne sais pas. Peut-être.
Ou pire, William est homosexuel. Et ça remet en cause toute la royauté britannique.
Oui, effectivement, puisque la royauté est basée avec son partenariat avec l'Église. Donc ce serait très drôle de
l'église
voir...
L'Église protestante, attention, qui n'est pas la même que celle qui... Le catholicisme vaticanesque.
Qui elle-même n'est pas la même que l'Église orthodoxe.
Exactement.
Voilà, qui elle est plus du côté de nos congénères russes.
Revenons à nos moutons.
Donc William est homosexuel, tu disais ?
Non, je n'ai pas dit que le prince William était homosexuel, loin de moi, enfin loin de moi de penser ça. Non, mais par contre, effectivement, il a eu quelques actions durant sa relation avec cette jeune fille qui ne lui ont pas plu.
Et tu nous demandes donc quelles sont ces quelques actions ?
Effectivement.
Et nous sommes à une heure de grande écoute, je ne vais pas pouvoir me lâcher complètement, donc je m'excuse auprès de nos auditeurs.
Mais je croyais dans tes pensées.
C'est lui donc qui a fait des trucs bizarres.
Non, effectivement, ce serait plutôt de son côté. Mais effectivement, alors la raison officielle, c'est qu'il ne se sentait pas prêt à assumer le mariage et la royauté qui irait avec, puisque sachant qu'il est quand même le roi qui serait le plus probable à imaginer plus tard.
Ah, je sais, il jouait mal au cricket et elle n'aimait pas. Elle adore ce sport et.
C'était un loser, tu crois ?
Ouais.
Je sais pas si c'était aussi simple que...
Serait-ce un truc à base de cuir ?
Je crois que tu n'es pas loin, mais effectivement, il entretenait une relation de
avec
cuir.
Avec une vache.
Eh bien, je sais pas.
Bah, je ne vais pas me prononcer sur, la largeur de son postérieur, mais effectivement, il avait une autre mademoiselle.
Oh, le méchant.
Le méchant. Non.
Le vilain garçon.
Mais apparemment... aurait riposté donc le prince Harry qui s'occupe beaucoup de son frère. Sa petite copine avait elle aussi déjà été voir ailleurs. Bref, apparemment, leur couple était un panier percé, ça partait de partout.
Heureusement alors que...
C'était rock'n'roll, comme on dirait.
Voilà, exactement. Rock'n'roll d'ailleurs, qui vient d'Angleterre. Mmh. Et nous attaquons tout de suite notre dernière question.
Suspense.
Et notre dernière question va parler de personnalités politiques que vous connaissez très bien, qui sont, je suis sûre, que deux personnalités politiques que vous connaissez très bien.
Non, moi, je ne connais pas trop.
Ah, Flore, tu débarques. Mais n'aurais-tu pas entendu parler en France de deux personnalités politiques ?
Si, il y a Johnny Hallyday et... Doc Gynéco me dit, je le connais pas.
Mais... Effectivement, on fait un petit peu de la politique à la sauvette, mais je ne parlais pas d'elle. Je parlais évidemment de Monsieur Sarkozy et de Madame Royal.
Ah, Royal. Les élections.
Voilà, effectivement, les élections. Eh bien, il se trouve qu'il y a un institut de sondage européen qui est allé s'amuser à sonder nos congénères européens et qui leur a demandé quelle est la figure politique qu'ils préféraient le plus. Et qu'il souhaitait voir élu à la tête de la France. Alors, je vous demande quelle est celle qu'il préférait le plus des deux.
Flore, une idée ?
Flore, déjà, vois-tu qui est Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ?
Ségolène Royal, elle fait coucou aux gens, là, et... Oui, je vois. Mais je pense pas qu'ils veulent une femme. Mm-hmm. Donc, je dirais monsieur Nicolas Sarkozy.
Donc, toi, tu penses... Alors, rappelons que ce sondage a été réalisé, bon, pas chez nous...
C'est pas ce que je veux, hein. Mais j'ai pas le droit de dire ce que je veux.
Oh, cela dit, nous respectons les convictions politiques de nos auditeurs, de nos chroniqueurs et de moi-même. Non, mais alors,
je les connais pas parce que. Non, je connais
oui,
rien.
Oui, bon, en fait. Sinon.
Mais enfin, Mathieu, ne coupe pas ma chroniqueur. Alors là, je ne sais même pas ce qu'on dit.
Si, on parlait de sondage Sarkozy au Royal.
Oui, effectivement. Alors, je disais que ce sondage n'avait pas été fait partout en Europe. Il y avait 2000 personnes qui avaient été interrogées. Et elles avaient été interrogées en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. C'est-à-dire de proches des pays qui des pays limitrophes. Exactement. Voilà, exactement. Il me semble que l'Angleterre ne l'est pas, mais ça compte un peu.
Bon, alors, c'est Ségolène.
Ah, Ségolène, tu as changé d'avis. Pourquoi? Tu penses qu'ils sont plus enclins à aimer les femmes que les pays du Sud?
Bah, un peu de nouveauté dans l'Europe, peut-être qu'ils se disent.
Ah oui, et puis les Allemands, en plus, ont élu une femme récemment.
Voilà, donc on continue. Mm-hmm.
Je serais incapable de dire le nom de l'élu allemand, mais je suis du même avis que Flore concernant la personnalité préférée.
Eh bien, l'élu allemande qui est à la tête d'une coalition gauche-droite s'appelle Angela Merkel, il me semble.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Oui, elle s'appelle comme ça, mais elle n'est pas de coalition.
Ah non, elle n'est pas à la tête d'une coalition gauche-droite, t'es sûr? Il me semble que si, puisqu'il me semble que, d'ailleurs qu'ils se sont disputés récemment encore, enfin, ils n'arrivent pas à s'entendre, quoi. Enfin, bon, c'est un peu la même histoire que la cohabitation en France. Hein.
Bref. Qui est l'heureux élu de ce sondage?
Eh bien, bref, alors déjà, je vais vous dire leur pourcentage, mais ils sont minables à tous les deux. Mais il se trouve quand même que Ségolène Royal a deux fois plus d'attention de vote de nos congénères européens, puisque 16% des Européens voteraient pour elle.
16% des Européens?
Oui, ce n'est pas beaucoup. Mais alors, Monsieur Sarkozy fait donc deux fois moins, enfin non, deux fois moins, il fait 7%.
Mais la question qui se pose, où sont passés les pourcentages restants?
Mais écoute, c'est la question que je me suis posée aussi, mais Le Monde, enfin, je suis allée pêcher cette information ce matin dans Le Monde, et il n'ajoutait pas les pourcentages, le reste des pourcentages, puisqu'effectivement, un petit peu de calcul mental, 16 plus 7...
Dur, 23.
23, donc ça veut dire que donc 100 moins 23, ça fait à peu près 77, je crois. Mais il manque 77%, je ne sais pas où ils sont allés se balader. Mais ajoutons que cet ordre est inversé en France. 23% des Français voudraient voir élu à la tête de la France M. Sarkozy contre 22% pour Ségolène Royal.
Très bien.
Ou pas. Mais ça, chers auditeurs, nous vous laissons le choix, évidemment, de vos convictions.
Et donc, nous en avons fini là avec vos questions, ma chère.
Effectivement, j'ai fini de vous emmerder et je vais te prier de m'appeler ma chère animatrice.
Oui, ma chère animatrice.
C'était très intéressant.
Voilà. Et je vous préviens que nous allons en avoir d'autres pour les prochaines fois. Mais je crois que Flore a un petit peu avant d'arriver. D'ailleurs, Flore, dis-moi, es-tu arrivée clandestinement dans l'Union européenne et en France?
Je vous expliquerai petit à petit comment je suis arrivée ici.
Mais rassure-toi, nous n'allons pas te dénoncer.
Mais j'espère bien.
Pas pendant l'émission, en tout cas.
Non, je suis partie dans une boîte à chaussures. Et après, la prochaine fois, je vous expliquerai la suite.
Après, tu as gonflé. Bon, retenant cette information. Mais donc, je crois que Flore, avant de venir...
Moi, je me suis un peu renseignée avant de venir et j'ai découvert quelque chose.
Bien, bien.
Vous voyez le drapeau de l'Union européenne avec les 12 petites étoiles jaunes sur fond bleu, en cercle. Moi, je pensais qu'il y avait le nombre d'étoiles qui représentait le nombre de pays. Bon, étant donné que le nombre de pays augmente, c'était un peu suspect. Et je me suis rendu compte que le 12, c'était un nombre parfait qui représentait en fait les 12 heures sur le cadran solaire, les 12 jours de l'année. Donc voilà, c'était un signe parfait. Et le cercle que forment les étoiles, c'est l'unité que veut représenter l'Union européenne. Donc voilà, je trouve que c'était un beau symbole. L'Union européenne est pleine de symboles. Oui.
Excusez-moi, je me permets d'intervenir dans l'émission, je ne suis que technicien.
Bonjour, technicien.
Bonjour, Romain.
Bonjour, technicien.
Il me semble que le symbole de l'Union Européenne, justement, et je dois dire que je n'en suis pas fier, mais il me semble que c'est un truc religieux, justement, c'est lié à la religion catholique.
Mais comment ça?
Les fameuses 12 étoiles.
Comment la France a-t-elle pu laisser passer ça?
Non, c'est pas officiel.
Depuis quand la France est-elle un état laïque?
Oh, attends, la France est quand même, se targue quand même d'être laïque depuis 1905.
Elle se targue, mais au niveau des actes, c'est pas vraiment... Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a pu voir une personnalité représentant... Enfin, un ministre, je vais dire, je vais pas aller plus loin, qui donc représente le gouvernement et donc l'État français, faire un signe de croix devant tout le monde, devant les caméras, en tant que ministre. Et donc, ça laisse à penser...
Quand est-ce que c'était?
C'était il y a un an ou deux, en Bretagne. Bon, bref, faire le signe de croix comme ça, quand on se fait représentant du peuple, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler quelque chose de laïque.
C'est discutable, en effet.
Exactement.
Effectivement. Alors après, je ne sais pas trop comment était le contexte, mais effectivement, cet acte est discutable.
Mais bon,
il a fait ostensiblement, il y avait les caméras, il savait qu'elles étaient
exactement,
là.
Exactement, oui, c'était calculé à mon avis.
Il a vraiment manifesté sa religion.
Il y a deux poids de mesure, on n'est pas dans un état... veux dire, c'est pas aussi grave qu'un État comme les États-Unis, par exemple, où là, c'est vrai, c'est flagrant que la religion fait loi. Mm-hmm. On sait tous que George Walker Bush est un fervent évangéliste très pratiquant, nous allons dire.
Mm-hmm. D'ailleurs, il me semble que sur les billets américains, les dollars américains, il y a marqué la devise « In God we trust ».
Oui, exactement, ce qui prouve que totalement. Mais je crois aussi que c'est dans la Constitution.
Ah, c'est possible. Mm-hmm. Bah, il prête serment avec la main droite, déjà, je crois, sur la Bible, quoi. Mm-hmm.
Exactement.
Sur l'Oli-Bible.
Tout à fait.
Donc, on n'est pas à plaindre, en fin de compte.
Finalement, mais alors, effectivement, il est possible que l'Union européenne ait adopté pour son drapeau un symbole religieux, vu que, quand même, en France, nous sommes plus ou moins une exception avec notre histoire de laïcité, vu que beaucoup de pays sont...
C'est pas ce qui est revendiqué pour...
C'est fort probable.
Signification du symbole.
Pour la petite histoire, je vois pas très bien en quoi les 12 étoiles, c'est un symbole religieux, donc j'aimerais bien que Romain, technicien, si tu pouvais revenir
technicien, je t'autorise à revenir.
Donc, Romain est en train de
technicien
de travailler.
Est en pleine action.
Il va arriver nous apporter la réponse. Peut-être, je dis bien peut-être, que le numéro 12 a un rapport avec les 12 apôtres lors de la scène, le repas final de Jésus-Christ, machin. Ça peut être donc là un nombre sacré qui représente l'humanité.
Ou alors avec les renseignements.
L'Aveyron était la capitale de l'Europe.
L'Aveyron maintenant.
L'Aveyron était le centre géographique de l'Europe.
Nous parlons effectivement du département et non de la discipline sportive, qui est d'ailleurs très bonne pour le cœur et pour les muscles.
Ne nous éloignons pas du sujet.
Oui, là nous sommes vraiment en train de nous éloigner. Non, mais effectivement, je ne pense pas que c'est à voir également avec un quelconque standard de renseignement téléphonique, donc effectivement, nous n'en saurons pas plus.
Non.
Mais
ce n'est pas grave, le mystère restera complet sur ce numéro 12 et ses étoiles.
Mm-hmm. Et as-tu une autre information à nous faire passer sur l'Europe ? As-tu appris d'autres
J'ai appris que l'hymne de l'Europe et de l'Union européenne était l'Ode à la joie de Beethoven. Voilà, donc peut-être dans une prochaine émission, nous aurons la chance de l'écouter.
Et c'est vrai que nous devrions le faire. D'ailleurs, Ségolène Royal nous dit de chanter la Marseillaise un petit peu tout le temps. Nous devrions, d'ailleurs, avant de commencer cette émission, chanter l'hymne à la joie. D'ailleurs, cette hymne à la joie, elle a des paroles.
Eh bien, je ne crois pas.
C'est dommage, on ne pourra pas chanter faux devant.
Mais nous pourrons fredonner.
C'est trop dommage. Bah, alors, en parlant de musique, nous allons donc passer à une musique dont je connais le titre cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Trio et de sa chanson G8.
G8 Lascar qui me saoule.
Oui, Lascar qui me saoule.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. G8 Lascar qui me
saoule. Oui, Lascar qui me saoule.
J'ai envie d'en parler. Dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des Bush, des Young, des Mines, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politiques au pourri qui pensent au nom du profit. J'ai oui dire que notre présent c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements. Alors y'a plein de choses à dire, ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir, parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai huit Lascar qui me
fuit, Lascar qui me saoule.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai huit Lascar qui me
fuit, Lascar qui me saoule.
J'ai envie d'en parler, ouais. J'ai pas peur pour mon gosse. J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse. J'suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce. Y'a pas d'ambiguïté maintenant qu'il est né. J'veux pas le laisser évoluer dans un tel merdier. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles. À notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre boursicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder. Votre gueule s'écraser d'un trait sur le pavé. C'est faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oui qu'elles sont belles. J'ai une bonne nouvelle. On va boycotter en force et faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oui qu'elles sont belles. j'ai huit lascar qui me
saoule. Huit lascar qui me saoule.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai huit lascar
qui me saoule. Huit lascar qui me saoule.
J'ai envie d'en parler.
C'était Trio qui a conspué gentiment, ou plutôt méchamment, sur le G8. Le G8, donc, cette organisation des 8 plus grands dirigeants de la planète, des pays les plus riches.
Là, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes capable de me donner les 8 noms des pays qui constituent le G8, là, comme ça?
Eh bien, je mets les États-Unis, je mets le Japon, l'Allemagne, ouais. Je pense que je ne me trompe pas.
La France.
Oui. La France. Ouais, la France.
Le Royaume-Uni.
Est-ce que la Russie y est?
La Russie y est, oui.
L'Angleterre.
Ça en fait 6. Plus que 2.
Oh, j'ai déjà oublié les 6 en plus.
T'as dit le Japon?
Ouais, j'ai dit le Japon. Le Japon, c'est la seconde puissance mondiale. L'États-Unis, première. L'Allemagne, troisième. Donc, en principe, ils y sont. Alors, à part ça...
L'Italie.
La Chine, peut-être.
L'Italie.
Non, la Chine... Je pense pas qu'on la mette. Oh, non, elle sent pas... Non, la Chine ne sent pas mauvais, mais je la vois mal dans le G8.
Oh, maintenant, avec les nouvelles lois qui sont votées en Chine, dans pas longtemps, on va le voir arriver avec ses grands sabots sur la scène, on va dire, du marché libre.
Elle est déjà arrivée dans nos magasins de fringues, d'ailleurs.
Exactement, et rappelons qu'il y a un mois de cela, la Chine a voté sa première loi garantissant le droit à la propriété privée, qui n'est plus vraiment dans l'ère de l'idéologie communiste dont on connaissait la Chine.
Mais la Chine, déjà économiquement, avait lâché le modèle communiste. Je crois que ça restait juste politiquement parlant, mais à part ça, là...
Exactement, ça reste communiste pour la forme.
Oui, voilà, c'est un petit communisme, mais je crois que de toute façon, ça n'a jamais été vraiment appliqué. Non, alors, je crois qu'on en a 17, je crois qu'il nous en a moins qu'un, donc.
Oui, mais je serais incapable de vous le dire.
Okay,
c'était
merci.
Juste pour savoir.
C'était juste pour nous emmerder.
Bon, la prochaine fois,
pour nous embêter, pardon. Mes chers auditeurs en dessous de 12 ans, ne répétez pas ce que je viens de dire.
Non, mais je crois que le Canada ou l'Espagne, un de ces deux pays, doit
effectivement,
faire
le Canada, ouais. Peut-être pas l'Espagne.
On donnera la liste la semaine prochaine. Promis.
Nous allons demander à Romain si c'est toujours pourquoi le 12 est un symbole religieux ou pas.
Oui, après vérification par mes services, donc visiblement le 12 ça représente la plénitude, hein, comme vous l'avez dit, mais bon, il y a aussi les 12 apôtres qui sont inclus dedans, mais c'est pas spécifiquement religieux, donc je retire ce que je viens de dire.
Bah, c'est peut-être l'Église qui est venue nous emmerder avec ces questions de religion.
Non, et puis tout le.
Mais
chaque
ne suis pas pour l'Église, je ne suis pas contre l'Église, bien sûr.
Mm-hmm. Comme il s'agit d'un symbole, chaque religion à chaque fois s'accapare les mêmes symboles au fur et à mesure, donc. On est un peu
plus chaque été
victime de la religion.
Plus chaque état, voilà. Mais exactement. Donc voilà, l'Union veut rassembler tout ça et faire un symbole commun. Comme c'est gentil, merci. Mais nous allons tout de suite attaquer le débat. Vous voyez, chers auditeurs, que mes petits débatteurs sont déjà très chauds pour se tomber dessus. Je veux dire, se bagarrer, bien sûr.
Il va y avoir du sang.
Voilà, alors évitez d'en mettre sur les micros, bien entendu. Et donc, je vais vous demander si vous êtes... Mais nous avons parlé de l'Union européenne, mais je vais vous demander si vous êtes pour ou contre une Union européenne, c'est-à-dire... L'Union européenne, qu'est-ce que c'est? En gros, au début, l'Union européenne devait garantir pour les 6 pays qui en faisaient partie, on va dire, une sorte de plénitude financière, mais également, et ça s'était associé sur l'acier et le charbon, donc ils devaient garantir une sorte de plénitude là-dessus, ils devaient s'entendre sur un certain de partage. Puis, petit à petit, ça s'est agrandi économiquement parlant. On a commencé à enlever les frontières, on a commencé... À vouloir également entrer dans le domaine politique. Donc l'Union européenne, maintenant, c'est une institution politique qui a un Parlement.
Européen.
Oui, il y a un Parlement européen et un Sénat. Voilà. Alors le Parlement, il me semble qu'il se trouve à Strasbourg et le Sénat, alors plus...
Non, il y a un Sénat. Oui.
Madrid, par là.
Bon, nous avons du mal. Je crois que nous avons beaucoup du mal. Il me semble que la semaine prochaine, nous devrions faire un quiz institution européenne. Et nous allons beaucoup nous marrer. Éditeur, si tu veux te marrer, sois là le jeudi prochain, 20h.
Non, je crois qu'en fait, le Parlement est à Strasbourg et puis il y a la Chambre des représentants ou un truc comme ça qui est à Bruxelles. En fait, c'est tous au niveau de la zone Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg que les institutions européennes sont réunies. Par contre, de là à les nommer,
Eh ben, nous ferons ça la semaine prochaine.
Exactement.
nous allons rigoler. Non, mais alors, êtes-vous donc pour une institution qui soit... C'est-à-dire que nous avons déjà une institution qui est l'État français. Nous avons aussi les régions, les mairies. Mais êtes-vous pour une institution européenne qui, par exemple, va nous poser des impôts, va nous poser des lois également sous forme de directives européennes que nous allons devoir appliquer, que les États vont devoir appliquer. Donc nous avons par exemple des politiques agricoles communes, nous avons des lois qui arrivent. Et êtes-vous pour que, déjà, êtes-vous pour qu'en dehors de votre pays, il y ait une instance supérieure à ce pays ? Bon, dans les faits, l'Europe n'est pas tellement supérieure à ce pays, mais êtes-vous pour qu'il y ait une instance qui dirige également ce pays ?
Flore,
attention. Moi, je dirais que chaque pays a déjà pas mal de lois, donc c'est bien aussi de laisser chaque pays se gérer. Mais après, s'il y a des normes qui peuvent être européennes, qui peuvent simplifier la vie, qui peuvent... par exemple, j'ai découvert aussi que tous les produits qu'on utilise en Europe ont les ingrédients écrits dessus, et ça a été décidé par l'Union, avec l'Union européenne. Donc des choses comme ça, des normes qui peuvent être... Enfin bon, c'est pas du très haut politisme, on va dire, mais...
Effectivement, c'est du peu... Ouais, mais effectivement, c'est quand même des lois qui sont concrètes et qu'on vérifie tous les jours, donc c'est...
Voilà, c'est des normes qui sont assez intéressantes. Après, politiquement parlant...
Donc, voilà. Oui, je peux parler, oui. Ouais, ta question soulève plusieurs points. Excuse-moi. Ta question soulève plusieurs points, niveau politique, niveau économique, niveau militaire même. Tout à l'heure, on parlait d'une défense commune, mais actuellement, il y a déjà des lois qui sont votées au niveau de l'Europe et qui sont appliquées dans tous les pays, tous les traités européens. Nous avons la chance en France de bénéficier de la PAC, bon, etc. Donc,
la PAC nous a quand même demandé, par exemple, de. Je pense que tu parles de la politique agricole commune.
Exactement.
Nous a quand même demandé d'arracher, on va dire, 20 hectares de vignes par parcelle de vignoble. C'est-à-dire que parce que l'État français produisait peut-être trop de vin par rapport à l'État italien, l'État espagnol, nous avons quand même dû arracher nos vignes. Donc bien sûr, effectivement, le Bordelais est reparti, nous recommençons nos exportations, mais c'est quand même une instance supérieure qui nous a commandé de faire ça.
Oui, mais à côté, quand on voit tout ce que la PAC apporte aux agriculteurs et surtout en France, la PAC existe encore, ça existe depuis les années 60, ça existe encore aujourd'hui parce que la France se bat pour ça et que ça ne bénéficie qu'à la France et que la France bénéficie, je vais dire encore ce mot, d'un certain poids au niveau de l'Europe malgré le nom qui a été dit à l'Europe. Mmh. Bref, tout ça pour dire que même si, bien sûr, ça nous contraint, la PAC est fortement bénéfique, au moins pour l'agriculture en France. C'est indéniable.
Rappelons également que l'Union européenne a œuvré en faveur de la disparition des frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières qui soient économiques, qu'il n'y a plus... c'est-à-dire qu'il y a le libre-échange pour les marchandises, mais également pour les populations. Vous avez donc remarqué, c'est l'histoire de notre cher plombier polonais, mais également des cultivateurs espagnols qui viennent dans nos champs en France, par exemple. Donc, êtes-vous plutôt pour ou contre cette ouverture de l'Union européenne ? Sachant que, par exemple, moi, sur quoi je suis pour, c'est pour le brassage des étudiants. C'est qu'effectivement, il y a un programme Erasmus qui a été créé en 83 ou en 87, excusez-moi pour mon approximation, et qui permet à des étudiants de partir. Mais bon, elle est quand même chaud à choper, hein.
Ouais, mais c'est super intéressant. Que les jeunes puissent se rencontrer dès leurs études, c'est super intéressant. C'est comme l'euro, on peut s'en servir dans tous les pays. Voilà,
beaucoup de pays râlent quand même sur l'euro, et notamment la France. Là, ils trouvent que l'euro a créé une inflation.
Oui, peut-être, mais au niveau des voyages, on peut voyager, ne serait-ce parce que les frontières, on peut passer, on peut aller où on veut, et c'est quand même plus simple au niveau monétaire, je trouve, même s'il y a une inflation qui a été constatée.
En ce qui concerne mon avis, oui, l'ouverture des frontières, je pense que ça a vraiment été bénéfique pour nous, Européens. Imaginez, c'est super intéressant. On a envie d'aller faire un tour en Espagne pour le week-end, il suffit de prendre la voiture, on n'a même plus à se prendre la tête avec ces histoires de passeport ou quoi que ce soit. Les frontières sont grandement ouvertes, au moins au niveau de l'Europe. Je pense que Sur un côté, je veux dire épanouissant, c'est assez intéressant d'avoir ouvert les frontières. Puis concernant l'euro, dire que oui, ça entraîne l'inflation, rien ne dit non plus que si on avait gardé le franc, ça aurait entraîné ou non une inflation, ou ça aurait entraîné une récession ou quoi que
l'euro
ce soit.
L'euro étant une monnaie forte, c'est-à-dire qu'elle a commencé, elle était à peu près, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2 francs. Cher auditeur, elle a commencé, elle était à peu près à 6,50 francs. Là, l'euro va arriver à 7,50 francs et bientôt va peut-être arriver. C'est-à-dire que l'euro, avec la politique européenne, a continué à monter. Donc, une monnaie forte, ça fait quand même une monnaie qui, sur les autres plateformes économiques, en échange, nous fait, je crois, perdre quelque peu de l'argent sur certains taux. Donc c'est aussi ça qui, sur les retours, nous a fait peut-être entraîner une inflation. En même temps, je ne suis pas économique, mais on peut se prononcer là-dessus. Comme on peut se prononcer, par exemple, sur l'ouverture des frontières, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, en acceptant les 10 pays, les 10 nouveaux pays ? Auditeur, ne m'appelle pas pour me demander de les citer, je te prie. Est-ce qu'en acceptant ces 10 nouveaux pays, on n'a pas non plus ouvert la porte à des pays quand même qui n'avaient pas notre niveau ? Alors, je veux bien qu'on les aide à avoir notre niveau, mais par exemple, regardant avec l'Allemagne de l'Est, c'est pas encore gagné, elle n'a pas encore récupéré alors qu'on est quand même à 10 ans. Est-ce que quand même, c'était pas un petit peu hasardeux, sachant qu'effectivement, ils peuvent voyager, mais ils peuvent travailler en France, mais ils n'ont pas notre niveau, donc il y a un gros écart. Mathieu, je te laisse parler.
Oui, alors je vais encore faire la mauvaise voix et tout, je vais encore te... être contre toi, mais bon, je suis désolé. Oui, faudra me flageller après. Concernant, oui, l'euro fort, oui, comme l'euro est fort par rapport au dollar, qui, comme tout le monde le sait, est la monnaie pièce, la monnaie type sur le marché des échanges, l'Europe a beaucoup du mal avec ses exportations. Par contre, concernant les imports, il est très intéressant aujourd'hui d'acheter des objets, donc en tant que particulier ou même, l'Europe fait beaucoup de bénéfices en import auprès des autres États, notamment les États-Unis avec qui elle est en partenariat.
Mais oui, mais nous achetons États-Unis, nous achetons pas Européens.
Si, justement, j'allais venir à ça. Donc, on parlait de l'ouverture aux pays de l'Est. Donc, maintenant, il faut savoir qu'on est 27, avec l'entrée de la Roumanie et d'un autre pays dont je me rappelle plus le nom.
Je pense que c'est la Bulgarie.
Donc, l'objectif, selon moi, de cette ouverture à l'Europe de l'Est, était de piquer le marché possible qui pouvait se créer avec ces pays de manière à le favoriser avec les pays européens. Donc, on s'ouvre aux pays de l'Est qui sont pauvres, machin, ça va créer une économie et une économie qui, après, nous sera bénéfique. Les points négatifs de cela, bien sûr, c'est que, étant donné qu'ils rentrent dans la zone économique et toutes ces histoires, ça ouvre les frontières, ça ouvre les travailleurs, et donc les entreprises auront plus tendance à s'exporter elles-mêmes vers ces pays et donc à créer du chômage en France. Mais il faut bien savoir que cette ouverture, bien que tout le monde dise que c'était pour les agrandir, les faire en sorte qu'ils atteignent notre niveau de vie, c'est aussi pour qu'ils puissent jouer dans notre bac à sable à nous, les Européens, et faire des échanges, importations, exportations. On exporte beaucoup maintenant vers les pays de l'Europe de l'Est.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande part du budget qui... Donc tu penses que le fait qu'il y ait une grande part du budget qui parte en aide pour ces pays soit une bonne chose pour les 10 pays, pour les aider à...
Ah oui, totalement. Mmh. Bien sûr, on leur apporte un niveau de vie. Faut savoir qu'ils sortent de... Je vais dire une bêtise, mais une approximation de plus de 70 ans. Non, c'est depuis la guerre. De 50 ans de régime communiste, on va dire, et que depuis...
Je crois que c'est 1918-1922, déjà, je crois, le communisme.
1918, c'était en Russie, mais tout ce qui est Europe de l'Est, c'est le partage des pays après 45.
45, ouais.
Et donc, ils ont vécu sous le joug communiste pendant jusqu'en 89, avec l'ouverture du mur de Berlin. Bon, bref.
Même 91.
91, oh pardon. Et donc.
91, c'est la fin. Alors je vois que beaucoup de gens me disent non, mais 91, c'est l'effondrement de l'IRSS. Donc.
Bon, on va dire dans les années 90.
D'accord.
Et là, ils se sont ouverts à un nouveau type de marché, qui est à savoir le capitalisme. Et donc. Il faut arriver à leur rehausser le niveau de vie qui était jusqu'alors assez bas.
À les aider.
Et donc leur envoyer des sous, même si d'un autre côté ça nous fait perdre des emplois, mais pour eux c'est bénéfique et pour nous aussi, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on exporte vers eux et donc ça fait un nouveau marché.
D'accord. Et bien sur ce, ça va être la fin de notre débat et de notre première émission. Nous travaillons pour l'Europe. Nous travaillons sur l'Europe, nous travaillons avec l'Europe. Et donc je vais laisser à mes chroniqueurs le soin du mot de la fin.
Bon, moi j'apprends des choses tous les jours. Je débarque, j'apprends, c'est super.
Ben, moi, en ce qui me concerne, j'espère que, que cette émission vous aura plu et que vous serez encore plus nombreux à nous écouter la prochaine fois. Mm-hmm. Et donc, j'espère... On va chanter l'hymne à la joie ?
La prochaine fois. Et la prochaine fois, nous allons donc faire un quiz sur les institutions européennes, puisque nous lâchons lamentablement, mais également un débat sur l'avortement et sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, puisqu'on en parlait récemment. Mais alors, le prochain morceau, c'est l'artiste Tagada Jones avec Combien de temps encore ? Et sur ce, bonne soirée.